ぽかぴぽかぴ。ぽかぴ。
Bonsoir. Dans une déclaration faite ce week-end sur la marche du pays, l'Union pour la Nation, plateforme de l'opposition, affirme que la RDC va mal aujourd'hui plus qu'il y a 5 ans et pire encore qu'il y a 15 ans. Comment analyser la déclaration de l'Union pour la Nation? Nous recevons comme invité Jean-Baptiste Beaumanza, coordonnateur adjoint chargé de la communication et médias et porte-parole de l'Union pour la Nation. Monsieur Beaumanza, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Olivier Ngoulou, philosophe et cadre de l'Alliance de la majorité présidentielle. Monsieur Ngoulou, bonsoir.
Bonsoir.
Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa, lui est en ligne. Monsieur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Et comme d'habitude, vos réactions, nous les avons déjà. Augustin Kandé de Chikapa au Kassai Occidental, l'Union pour la Nation voit tout en noir. Mieux vaut dire qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'il y a encore beaucoup à faire plutôt qu'être pessimiste. Moukizi de Boutembo, Nord Kivu, l'ANP doit accueillir ce rapport sans faire de commentaires car le peuple congolais attend avec impatience la tenue des élections pour la corriger et la confronter à la réalité. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La RDC va mal aujourd'hui plus qu'il y a 5 ans et pire encore qu'il y a 15 ans. Cette déclaration est de l'Union pour la Nation. Cette plateforme de l'opposition politique a évalué samedi dernier à Kinshasa la marche du pays pendant ces 4 dernières années. L'UN conclut que la situation est chaotique dans tous les domaines. Sur le plan social, par exemple, l'Union pour la Nation qualifie d'insignifiant le salaire donné aux fonctionnaires de l'État. Cette évaluation est contenue dans un document de 25 pages considéré comme un bulletin d'information à publier chaque mois. Clément Kankou, vous êtes coordonnateur de l'Union pour la Nation. La RDC va mal aujourd'hui plus qu'il y a 5 ans et pire encore qu'il y a 15 ans. Que voulez-vous dire par ce constat?
Nous voulons dire que tous les secteurs de la vie nationale sont affectés par la crise. Nous voulons rappeler à ce gouvernement pour avoir mis un jet d'eau, pour avoir mis des artifices sur le boulevard du 31, cela ne va pas résoudre les problèmes de la population. Comment une maman qui n'a pas d'eau depuis 6 ans voit qu'on est en train de faire tourner de l'eau sur le boulevard du 31, même si le fait psychologique, je crois que le gouvernement devrait réfléchir avant de faire ce genre de choses. Que ce soit des infrastructures, que ce soit de l'économie, la population est soumise à une augmentation vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui vont certainement avoir des percussions sur d'autres secteurs tels que le transport. La situation des activistes de droits de l'homme, vous avez suivi, ce n'est pas nous qui le disons, les faits sont là, Tchébé a été tué, Armand Toumoula a été tué, Bazana, on ne retrouve pas son corps. Nous avons proposé des choses très simples, que l'État s'engage dans la dynamique de la bonne gouvernance, que l'État s'engage dans la lutte contre l'impunité. C'est simple, il faut commencer à punir.
Pour sa part, le secrétaire exécutif adjoint de l'Alliance de la majorité présidentielle précise que l'opposition congolaise dans cette évaluation n'a fait que son travail, mais Koyagia Lungasete-Geringo ajoute aussi que ce rapport exagère quand même lorsqu'il dit que le pays va mal qu'il y a 5 ans ou 15 ans. Il reconnaît que les attentes de la population n'ont pas encore été toutes satisfaites, mais rappelle tout de même que nombreuses réalisations ont été faites en 4 ans. On écoute lui, Koyagia, le secrétaire exécutif de l'ANP.
On ne peut pas dire que tout est bien, comme on ne peut pas du tout dire que tout est mauvais. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a un hôpital qui a été abandonné, un bâtiment qui a été abandonné depuis le départ du colonisateur belge. Aujourd'hui, ce bâtiment-là va redevenir un centre hospitalier rayonnant à l'Afrique centrale. Mais est-ce que je peux dire que là, le pouvoir est en train de mentir quand je vous donne cet exemple-là? Pourquoi nos amis de l'opposition ne disent pas ainsi? Dis voilà, ça c'est bien fait. Et de l'autre côté, il y a ça qui n'est pas bien fait. Nous avons un chef de gouvernement, nous avons un gouvernement qui a certainement un tableau de bord et qui attend les moyens que les Congolaises et les Congolais sont en devoir de mettre à la disposition de ce gouvernement pour pouvoir faire ce qu'il doit faire pour rencontrer les préoccupations de la population.
Voilà, ce dossier a été réalisé par Duna Madimba, Jean-Baptiste Beaumanza, de façon globale par rapport à cette évaluation, n'est-ce pas du déjà entendu?
Non, je crois que ce n'est pas du déjà entendu. Évidemment, je commencerai par saluer les auditeurs de la Radio Capi qui nous suivent à travers les pays, à travers le monde. Ce n'est pas du déjà entendu, dans la mesure où nous avons essayé de faire un effort pour procéder par une analyse fouillée, par l'évaluation de la situation du pays. Et depuis 2006 jusqu'à nos jours, nous avons même donné quelques éléments chiffrés. Et je crois que compte tenu de la situation en présence sur le terrain, nous avons essayé de faire voir aux Congolais d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Nous avons agité la sonnette d'alarme afin que ceux qui ont eu la charge de gérer la Respublica rectifient les tirs. Car nous allons tout droit vers le mur. Comme l'opposition doit constitutionnellement parlant jouer le rôle de lampe témoin, nous avons allumé cette lampe témoin afin que ceux qui sont en face de nous sachent qu'il y a péril à la demeure.
Alors avant d'aborder les différents aspects de votre rapport de façon sectorielle, il y a cet éditeur dessiné de Kananga au Kasai Occidental qui dit « La position de l'Union pour la Nation n'est qu'une fuite en avant du fait qu'ils n'ont pas de discours pour 2011, mais la majorité ne doit que résister et améliorer les conditions existentielles de vie de la population congolaise. Pourquoi ce rapport maintenant, pratiquement à la veille des élections ?»
Je dirais aux compatriotes de Kananga que nous n'avons pas fait la fuite en avant. Au contraire, c'est l'autre camp qui n'a pas de discours à tenir aujourd'hui. Vous vous souviendrez à travers la radio Capi, à travers d'autres médias. Ils ont péroré en disant que l'opposition sera incapable de désigner ses trois membres pour la CENI. Au jour d'aujourd'hui, le retard est de quel côté? C'est de leur côté. Donc nous faisons notre travail, nous voyons que le pays est très mal géré. Vous suivez tous les rapports des ONG de droits de l'homme. Vous suivez tous les rapports sur la manière dont le pays est gouverné. Vous avez suivi dernièrement. Il y a un rapport sur le plan de la corruption. Nous sommes placés en quelle position? Et là, l'opposition est en train d'inventer. Si nous faisons l'analyse de l'exécution des fameux chantiers, quel est ce chantier-là qui a été élaboré, à part du tape-l'œil, à part des actions d'éclat, pour tromper ceux qui ne vont pas louer dans leurs analyses? Donc nous pensons que nous faisons bien notre travail et ceux qui pensent que nous n'avons pas un discours, ils seront désillusionnés.
Alors commençons, parce que vous l'avez pratiquement presque déjà abordé, commençons par le plan socio-économique. Quel est le constat? Vous dites que rien n'a changé sur le plan socio-économique.
Oui, je vais d'abord commencer par les prix du César. Le poisson adulé par les Quinois.
L'impiodi, comment on dit ça?
Sous Mobutu, avec 100 dollars, on pouvait s'acheter un carton de fiote, 25 à 30 dollars. On pouvait s'acheter un sac de riz. On pouvait s'acheter un sac de cossette de manioc, le foufou. On pouvait même s'acheter un carton de poulet. Mais au jour d'aujourd'hui, le carton de fiote coûte plus ou moins 70 dollars. Un seul carton. Si vous prenez par exemple le pain qu'on appelait communément dans la journée, je suis dit, votre radio a interrogé le ministre de l'économie. Il a justifié sans convaincre. Si nous prenons par exemple le plan de l'éducation, au jour d'aujourd'hui, nous vivons le génocide intellectuel. L'État a démissionné de ses fonctions régaliennes. Ce sont les parents qui supportent le salaire des enseignants, à travers ce qu'on appelle la contribution des parents. Ce qui est grave, monsieur le journaliste, c'est que dans cette contribution-là, les gouvernements s'adjugent un pourcentage pour, encore une fois de plus, surcharger le même parent. Et donc, du point de vue sanitaire, nous vivons les génocides sanitaires. Les maladies qui jadis étaient éradiquées reviennent au galop. Donc, ceux qui nous condamnent n'ont pas le défi sur terre. Je souhaiterais, monsieur le journaliste, que l'émission d'aujourd'hui soit une émission pédagogique, que nous tenions compte des paramètres en présence sur le terrain au lieu de spéculer.
Olivier Ngoulou, vrai philosophe et cadre de l'Alliance de la majorité présidentielle, comment vous avez accueilli ce rapport?
Merci, je salue nos auditeurs ce soir. J'ai accueilli ce rapport avec une certaine surprise parce que l'opposition reste égale à elle-même et ne veut toujours pas constater les progrès qui sont accomplis dans tous les domaines. Je vous cite d'entrée de jeu une première phrase de ce rapport sur le plan économique en page 3. Le rapport dit qu'en dépit de l'atteinte du point d'achèvement, les populations restent vulnérables et vivent dans une extrême pauvreté. Alors, ici, vous voyez ce type de lien, des liens fallacieux qui sont établis, le rapport en est plein. Alors, que veux-je dire par là? Le point d'achèvement, l'atteinte du point d'achèvement suppose, au contraire, que le gouvernement a fait des efforts dans tous les domaines et qu'il a mené des réformes attendues par les bailleurs de fonds pour que sa dette soit réduite de 90%. Donc, par conséquent, on ne peut pas, dans la même phrase, dire une chose et son contraire. Si le gouvernement atteint le point d'achèvement, il est le premier, rappelons-le, à l'avoir atteint, c'est que précisément, les finances publiques ont été gérées de telle manière que l'instabilité macroéconomique soit réalisée et de telle manière que le gouvernement congolais puisse honorer ses engagements. Alors, d'autre part, il y a des réformes qui ont été prises pour l'amélioration du climat des affaires, et ce sont ces réformes-là qui vont produire des effets pour la croissance et pour permettre aux Congolais de créer des entreprises. En réalité, ce rapport de l'Union crée, si vous voulez, une certaine confusion, parce que c'est un rapport démagogique qui vise à flatter le peuple. Il ne dit pas, par exemple, qu'il y a déjà 3000 km de route qui ont été réalisées. En fait, c'est un rapport qui est plutôt le bilan des problèmes que le gouvernement s'évertue à résoudre, avec un budget faible, il est vrai, mais les problèmes qu'il a hérités de la Deuxième République, parce que les Congolais ne sont pas dupes et voient bien la différence. Au jour d'aujourd'hui, prenons un exemple simple au niveau, par exemple, des comptes bancaires des Congolais. Nous en avions 20 000 il y a encore quelques années, aujourd'hui on a 325 000. C'est-à-dire qu'il y a une confiance retrouvée par rapport à ce gouvernement, en raison notamment des efforts qui ont été faits pour la démocratisation du régime. Beaucoup de choses restent encore à faire, il est vrai, mais la République démocratique du Congo est sur la bonne voie. Le rapport ne parle pas de l'adhésion à l'OADA et des effets attendus. Le rapport dit que la RDC se porte plus mal qu'il y a 5 ans et beaucoup plus mal qu'il y a 15 ans, mais en réalité c'est tout le contraire. En réalité c'est tout le contraire parce qu'il y a une profonde réforme des institutions qui est conforme aux aspirations du peuple congolais. Et cette réforme des institutions va produire un certain nombre de résultats à terme.
Alors, vous parlez d'un rapport démagogique qui crée la confusion. Ce rapport, Olivier Ngolou, parle par exemple du taux élevé du chômage, de la hausse des prix sur les marchés, alors que le Congolais moyen vit avec moins d'un dollar par jour. Parce que vous faites allusion au secteur des finances, au secteur bancaire, ce rapport signale par exemple que le secteur des finances est pris d'assaut par des investisseurs sans que l'État ne s'assure des origines légale de leurs capitaux. Comment vous réagissez face à ces problèmes qui paraissent concrets par rapport à ce rapport?
Oui, justement, c'est une technique rhétorique qui est présente de manière constante dans ce rapport de l'Union pour la Nation, c'est-à-dire que dès qu'il y a une amélioration qui est constatée, ils tentent de la présenter négativement. Le fait qu'il y ait une multiplication sans précédent des agences bancaires et des sociétés financières qui s'installent en République démocratique du Congo pour offrir des services financiers et des services bancaires montre à suffisance que les marchés internationaux sont rassurés par les avancées en termes de démocratie. Autrement, ils ne viendraient pas. Vous savez que le grand capital a horreur du désordre et horreur du bruit, des boîtes notamment. Donc, le fait qu'il y ait une floraison, comme dit le rapport de banque, ne veut pas dire que ce sont des capitaux douteux, bien au contraire, puisque ces banques agissent au grand jour. Cela signifie que le gouvernement offre à présent les meilleures conditions, comparativement à il y a 15 ans, les meilleures conditions pour que les Congolais accèdent enfin au réseau bancaire et que toutes les transactions soient bancarisées. Et le rapport fait ça à peu près à chaque page. Dès qu'il y a des avancées positives, notamment en matière d'impunité, il cite un certain nombre d'interpellations qui ont été réalisées et se plaint de ce qu'il n'y a pas encore eu de suite, puisque évidemment ces dossiers sont en cours d'instruction. Donc c'est un procédé rhétorique qui est courant. dans ce rapport.
Je vous demande une brève réaction d'Olivier Ngoli à cet auditeur, Sylvain Banzasumbu, qui est en Bujumbura et au Kasai-Oriental. Il dit « Le Congo va plus mal que l'Union pour la Nation ne le présente, mais seulement nos frères de l'ANP font semblant face à cette misère de la population, car tous sont là pour leurs intérêts égoïstes, qu'ils n'oublient pas qu'ils auront encore besoin de nous en 2011. Ne pensez-vous pas que vous auriez plus gagné en recevant ce rapport avec un peu plus d'humilité ?
Non, parce qu'il faut dire à cet ami auditeur que la République démocratique du Congo n'est pas un pays riche, c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre et c'est parce que c'est un pays pauvre que des efforts sont faits pour justement atteindre la croissance, réaliser la stabilité macroéconomique et surtout le gouvernement a réussi à payer les dettes et maintenant il retrouve de la souveraineté. Ce que cet ami auditeur doit comprendre, c'est que tout ce qui n'a pas été fait dans ce pays depuis 1965 est en train d'être fait depuis 2006. Mais malheureusement, les effets, on ne les voit pas. Combien de kilomètres de route sous la deuxième République ? Combien d'hôpitaux ? Combien d'écoles ? Tout le tissu a été délabré. La preuve, c'est que ce sont les Congolais qui ont fait tomber le régime de la deuxième République. Aujourd'hui, le régime actuel, qui est un régime démocratique, doit tout remettre en place et ce n'est pas simple. La République démocratique du Congo est un pays pauvre, mais regardez le budget de l'État. Il est en constante augmentation depuis 2001. De 300 millions, aujourd'hui, il est à 7 milliards. Ça signifie que les Congolais sont beaucoup plus dynamiques qu'avant, ce qui permet à l'État de récolter plus de taxes, plus d'impôts.
Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous venez de suivre Jean-Baptiste Bomanza et Olivier Ngoulou. Quelle est votre analyse, hein? Comment vous analysez cette évaluation de l'Union pour la Nation?
Oui, disons que l'évaluation de l'Union pour la Nation, elle vient un peu tardivement. On aurait souhaité que un tel exercice qui élève en fait la fonction de l'opposition commence déjà juste après les élections. Et donc, il pourrait s'imposer comme une véritable alternative au pouvoir en place. En fait, le pouvoir en place ne pourrait pas s'attendre que l'opposition fasse un bilan qui est flatteur par rapport à l'action qu'il a entreprise. Non, pas du tout. Le bilan, non. Le rôle de l'opposition n'est pas de flatter le pouvoir en place, mais c'est de pouvoir le critiquer, de lui montrer ce qui ne va pas, afin de susciter un élan d'amélioration dans les chefs de ceux qui dirigent. Et donc, par rapport à ce bilan qui est dressé, moi je trouve que l'opposition a fait son travail. Son travail, c'est la critique de l'action gouvernementale. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'il dit dans le rapport, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses, c'est vrai, qui sont dites de manière assez exagérée, mais globalement, je trouve que ce rapport, en tant qu'œuvre de l'opposition, répond à la fonction de l'opposition, parce qu'il faudrait dire que l'opposition n'est pas seulement un acteur, c'est aussi une fonction. Et la fonction que doit jouer l'opposition, c'est celle de la critique de l'action gouvernementale. Et par rapport à cette fonction, en tout cas, moi j'applaudis cette que l'opposition vient de faire, parce que j'ai attendu ça depuis longtemps. Heureusement ou malheureusement, ça vient à quelques mois de l'élection.
Félicien Kabamba, il y a deux auditeurs, Joseph Kikuni de Goma en Nord-Kivu, qui dit que la majorité et l'opposition ne nous embrouillent pas, qui n'a jamais dit qu'il était à côté du peuple. Parmi tous les dirigeants du monde en général, et particulièrement ceux de la RDC, il y a cet internaute Jules de Kinshasa, nous ne savons plus faire confiance à nos gouvernants, ceux de la majorité ainsi que ceux de l'opposition privilégient leurs propres intérêts au détriment de ceux de la population. N'y a-t-il pas là une démarcation d'une certaine frange de la population par rapport aux revendications et de l'opposition et de la majorité?
Oui, disons que c'est là aussi le problème de l'homme politique congolais, qu'il soit de droite ou de gauche. Finalement, il crée au sein de la population une sorte de crise de confiance. Ce qui est vrai, c'est que par le passé, l'histoire nous a appris que les acteurs de l'opposition, ils sont au pouvoir, ils se comportent comme ceux qu'ils ont eu à critiquer. Et c'est là, c'est répété plusieurs fois au point que dans l'âme du Congolais, il s'avère que l'homme politique congolais, qu'il soit de gauche ou de droite, se comporte de la même manière. Mais cela ne peut pas empêcher l'opposition de critiquer l'action gouvernementale qui est engagée. Ce qui est vrai, c'est que dans le rapport de l'Union pour la Nation, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Par exemple, au sujet de la formation de l'État, de la consolidation de l'État, le pouvoir en place, le gouvernement actuel, est vraiment à côté de la plaque. Et il y a énormément de choses qu'on aurait qu'on attendait d'eux et qui n'ont pas été réalisés. Qu'est-ce que l'État congolais représente aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est encore? Quand on s'étudie sur le plan de la science politique, que représente l'État congolais aujourd'hui? C'est un État ballotté, c'est un État impuissant, c'est un État qui n'a pas été restauré par les élections, alors qu'on attendait que les élections allaient passer le blé, mais c'est un État qui est aujourd'hui pratiquement en débandade. Surtout quand on s'étudie à l'est du pays, on sent qu'il y a énormément de choses qui auraient pu être faites, mais qui n'ont pas été réalisées.
Jean-Baptiste Bomanza, vous venez de suivre Félicien Kabamba, l'opposition a joué son rôle, mais ce rapport est un peu tardif, hein. Comment vous y réagissez?
Non, je crois que le rapport n'est pas tardif, le rapport est venu à point nommé, donc je salue et félicite mon compatriote Félicien Kabamba. J'espère qu'avec son intervention, Léon Ngoulou va rectifier le tir, parce qu'il a été pragmatique, Kabamba. Par contre, Léon, comme il est philosophe, il est dans l'espace.
Olivier, vous voulez dire.
Léon Olivier Ngoulou, il est en train de planer dans l'espace, dans un monde platonique. Lorsqu'il dit que le rapport est une surprise, non, je crois que Léon Olivier, vous avez l'obligation de lire les textes qui régissent la République. Vous me donnez l'impression que vous n'avez jamais lu la loi portant statut de l'opposition, quand vous dites ça. Et ici, ça me rappelle l'interpellation que j'ai toujours faite à l'endroit particulièrement du président de la République et sur l'action négative des renards qui l'entourent. S'il y a des gens qui aident le président de la République à échouer, Léon est parmi ceux-là. Dans la mesure où Léon n'est pas la personne la mieux placée pour s'attaquer au régime Mobutu. Il est né, grandi, il a évolué sous le mobutisme. Il respecte les noms d'Ngoulou qu'il porte. Et donc, je suis en train de dire que je vis entre...
Mais évitons de personnaliser le débat.
Justement. Non, quand on essaye un peu de dérater, il faut qu'on fasse un effort pour faire revenir l'intéressé à l'ordre. Quand il dit que nous n'avons pas parlé de l'OADA, vous avez mis à sa disposition notre rapport. À la page 4, paragraphe B, bien que la RDC ait ratifié le traité de l'OADA, nous en avons parlé. Lorsqu'il dit que, par exemple, ce que nous disons est démagogique, mais que Léon me dise, chaque budget, depuis 2007, sous Gizenga, il y a toujours la rubrique construction d'un hôpital et d'une école dans chaque territoire. Que Léon me donne les statistiques de combien d'écoles est construite, surtout dans son territoire, de mon côté, combien d'écoles on a construit, combien d'hôpitaux on a construit. Il me parle de 3000 km de route. Mais que valent les 3000 km de route sur 145 000 km? Non, je crois que nos amis avaient commis une grosse erreur, monsieur le journaliste. Ils avaient pensé que 5 ans était égal à un siècle. Mais ils sont rattrapés par le temps. Ils avaient eu la mauvaise perception du temps.
Et pour vos 3000 km de route, c'est rien.
C'est rien par rapport à 145 000. C'est rien. Ce qu'on a fait ici à Kinshasa, les deux boulevards, on a juste eu le temps d'agrandir. Encore que, après les premières pluies, monsieur le journaliste, ces boulevards, surtout le boulevard du Congo, étaient transformés en lac, ici par fleuve. Quel genre de travail qu'on a fait? J'ai suivi un spécialiste de l'Institut géographique du Congo, un spécialiste scientifique, qui a dit que ne vous attendez pas à ce que ces travaux, ces ouvrages durent longtemps, parce qu'on n'a pas tenu compte de certaines normes techniques.
Alors avant de donner la parole à Olivier Ngoulou, prenons cette question d'auditeur pour vous, Jean-Baptiste Bomanza.
Moi, je me rends compte que l'Union pour la Nation est en train de distraire la population. Car nous en avons marre des déclarations qui profitent de dire à la population. Cette même Union pour la Nation, c'est elle est en train aussi de continuer à l'échec parce qu'elle a laissé passer des questions très sensibles qui touchent à l'intérêt général.
Brève réaction, Jean-Baptiste.
Non, je crois que notre ami là n'a pas les deux pieds sur terre. Ce que je suis en train de dire ici, ça se vérifie. C'est lui à Kananga. Il y a combien? J'ai suivi un reportage à la radio Kapi. Il n'y a pas d'eau potable à Kananga. Il n'y a pas d'électricité. Les barrages qui avaient été prévus pour Kananga, ils se trouvaient où? Et je vais citer en disant ceci. Olivier a parlé de banque. Qui dit banque dit épargne. Comment Olivier peut m'expliquer, ne fût-ce que par ce qu'il a comme connaissance, un pays avec 94% de chômeurs, comment peut-il dégager l'épargne et qu'il y ait des banques? Ces banques-là accordent des crédits à qui?
Olivier Ngoulou, réaction.
Je constate que Jean-Baptiste Bomanja continue, n'est-ce pas, cette rhétorique qui est d'ailleurs dépassée et qui consiste à ignorer que les individus ont précisément une existence individuelle et en tentant de amalgamer ma personne avec celle de l'auteur de mes jours, en l'occurrence le sénateur Ngoulou, il montre bien son état d'esprit par rapport à l'évolution des mentalités modernes. Donc, le sénateur Ngoulou a fait sa vie, son temps, moi je suis dans mon époque et je ne suis pas comptable de ses actes. Alors, j'ai été surprise par son contenu parce que le rapport montre un aveuglement de l'opposition. 3000 km de route, ce n'est pas planer dans l'espace, Jean-Baptiste Bomanda, c'est vraiment avoir les pieds sur terre. Lorsque l'ONATRA vous dit que la situation est pire qu'il y a 15 ans, mais il y a 15 ans, il se trouve que je suis un capitaine de la marine fluviale et que j'ai travaillé en plantation et piloté des bateaux pendant des années, l'ONATRA a aujourd'hui 18 bateaux en circulation contre zéro il y a quelques années. Ça, ce n'est pas planer dans l'espace, c'est naviguer concrètement sur le fleuve Congo. Et cela, Jean-Baptiste Bomanda, cette rhétorique qui consiste toujours à vouloir dire les choses autrement, les choses telles qu'elles vous plaisent ou les choses telles que vous les percevez, c'est le signe d'une mentalité, pardonnez-moi, qui peut être prélogique. Pourquoi ? Les écoles et les hôpitaux, tout le monde le voit. Tout le monde a vu le pont qui relie aujourd'hui l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. Ce pont, il fallait le faire, Jean-Baptiste Bomanda. C'est concret.
Je n'ai pas d'école et hôpitaux.
Oui, mais l'hôpital, pour, à Kinshasa, si vous aviez ouvert les yeux, Jean-Baptiste Bomanda, vous auriez vu qu'à Kinshasa, avenue du 24 novembre, il y a un très grand hôpital qui est en train d'être construit, l'hôpital du cinquantenaire. Pour ce qui concerne les écoles, tout le monde, tous les Congolais savent qu'on n'a pas construit plus d'écoles sur cette période que dans toute l'histoire de la République démocratique du Congo. Donc, les écoles sont en construction, les hôpitaux sont en construction, mais ce que je veux dire pour que les téléspectateurs comprennent, c'est qu'en fait, l'Union pour la Nation...
Les auditeurs.
Pardonnez-moi, les auditeurs, mais les...
Jean-Baptiste Bomanda, aidez-vous, je vous
prie. Oui, il faudrait dire qu'en fait, l'Union pour la Nation ne dit jamais avec quels moyens elle compte mener son programme. Parce qu'en réalité, et tout ce qui est fait aujourd'hui en termes de reconstruction l'est fait de manière très originale à l'aide du contrat chinois notamment. Puisque le budget de l'État était tellement faible lorsque ce régime a commencé en 2001 qu'il n'y avait pas moyen de mener le moindre programme de reconstruction. En fait, ce qui se passe, c'est que l'opposition est en train de faire le bilan de la Deuxième République et elle attribue la catastrophe congolaise à ce régime. Et ça, c'est inacceptable. Puisque tous les Congolais voient les efforts qui sont faits. Cependant, il y a encore beaucoup à faire. L'opposition ne le dit pas. L'opposition dit que nous ne faisons rien. Or, nous disons qu'il y a beaucoup à faire, mais nous avons déjà commencé.
Alors, il y a cet auditeur qui s'adresse à vous, Olivier Ngoulou.
Gérard Kajingou, Béni, dans la province du Nord Kivu. Il faut être de mauvais soins pour contredire l'Union pour la Nation. Parce que tout homme averti sait très bien que c'est le membre du gouvernement, sénateur et député, ainsi que leurs acolytes qui vivent bien en RDC. Pour le reste, c'est la population sur le calvaire.
Réaction, Olivier Ngoulou. Mais je voudrais dire à mon frère du Kivu que je comprends son désarroi, d'autant plus que cette province a beaucoup souffert. Mais il doit vraiment garder à l'esprit que ce pays est grand comme l'Europe occidentale et les difficultés, elles sont un peu partout. Et si aujourd'hui la difficulté, c'est la reconstruction, c'est parce que précisément tout ce qui devait être fait depuis 1965 et qui a été fait en Malaisie ou en Indonésie n'a pas été fait ici. La situation est difficile, c'est vrai, mais il faut que notre ami comprenne que les mesures qui sont prises vont produire des effets et qu'on ne gouverne pas à coups de baguette magique. Et je voudrais préciser que, contrairement à ce qu'il dit, il n'y a pas, il ne faut pas toujours penser que les gens qui font de la politique s'enrichissent au détriment de la population. C'est une mauvaise approche. Il faut adopter une approche critique, mais il ne faut pas lancer des accusations.
Félicien Kabamba, prenons cette réaction d'auditeur également à cette question pour vous.
Noël Nguyen, d'Arou en province orientale. Pour moi, la RDC était malade de longue date, pas des raisons restières du temps. J'estime que l'opposition congolaise doit agir avec objectivité. Elle doit reconnaître le traitement du gouvernement actuel, tant peu soit-il, et réellement c'est ce qu'il faut. Je reconnais que le mal du Congo est profond. Il faut absolument du temps et des ressources nécessaires pour son réel décollage.
Félicien Kabamba.
Oui, c'est vrai, c'est qu'il y a des choses positives, disons, on peut dire des avancées, qu'on a pu constater, mais il y a également des difficultés. Les avancées, c'est comme par exemple le taux de croissance, donc le taux de croissance qui, à un moment donné, était négatif, et aujourd'hui, on voit qu'il y a une progression dans le meilleur sens. Il y a également une augmentation exponentielle du budget de l'État, qui, il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, ne dépassait pas 400 millions de dollars. Aujourd'hui, on est à 4 milliards de fonds propres. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut trouver comme positives dans l'action gouvernementale. Il ne faut pas dire que tout est mauvais. Évidemment, moi, je suis un peu neutre, c'est comme ça que je peux voir ce qui est positif et négatif. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui sont quasiment négatives et pour lesquelles un certain effort gouvernemental est réduit. Et donc, parmi ces choses, par exemple, vous voyez qu'il y a un auditeur qui venait poser la question sur l'embourgeoisement de la classe dirigeante, un embourgeoisement très rapide. C'est un peu comme à la Deuxième République, en fait, où la politique était le lieu d'acquisition de la fortune et du prestige. Ainsi, l'État congolais était en quelque sorte devenu comme une source d'accumulation pour le groupe d'intérêts qu'ils ont pris en otage. Et ça, même aujourd'hui, c'est difficile. Nous sommes à Kinshasa, nous voyons comment rapidement les gens avec qui nous vivons, une fois qu'ils sont au pouvoir, comment les craintes échangent en arrière de temps, de sorte qu'ils sont en mesure de multiplier par 1000 leurs revenus. Et donc ça, ce sont des choses qui sont vécues chez Kinshasa et personne ne peut dire qu'ils ne voient cela. Il y a également le développement de la corruption dans l'ensemble du pays. La corruption existe, c'est vrai. Depuis longtemps, mais il est aujourd'hui devenu un mode complètement normal de fonctionnement de nos administrations et de l'État. Et pendant ce temps, on a l'impression que le gouvernement s'en accommode, il a engendré les dysfonctionnements actuels de tous les services publics, ainsi que l'affaiblissement même de l'éthique professionnelle à la fois, du personnel politique et du personnel administratif de l'État. Nous avons également les ventes de concessions minières à des conditions désavantageuses l'État congolais, qui profite à un certain nombre d'individus qui tirent rapidement des revenus. Donc il y a là un certain nombre de choses que l'on peut reprocher à la pratique politique actuelle et qui nécessite évidemment des corrections ultérieures. Tout n'est pas bon et tout n'est pas non plus mauvais.
Alors, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission qui concerne les propositions de l'Union pour la Nation, Félicien Kabamba, il y a deux autres auditeurs. Maurice, il est à Kinshasa. Tant que le président de la République et la majorité parlementaire seront issus du même camp politique, ce pays ne se relèvera jamais. La situation de la RDC sera toujours chaotique dans tous les domaines. Lambi Tshomba, la déclaration de l'Union pour la Nation montre que les élections approchent. Tout le monde veut conquérir la sympathie du peuple. Si la majorité n'a pas amélioré la situation socio-économique, c'est parce que l'opposition était inactive, car il n'y a pas de cohésion en son sein. Avez-vous l'impression, Félicien Kabamba, que le Congolais s'est approprié le débat politique, l'action politique même?
Et maintenant, là, on se dirige vers une lutte pour la conquête de l'opinion publique. Et conquérir l'opinion publique nécessite qu'on ait des arguments pour séduire l'opinion. Et donc, c'est pourquoi je disais qu'en fait, cette séduction de l'opinion aurait pu commencer avant pour l'opposition, plutôt que d'attendre, évidemment, à quelques mois de élections pour commencer cette campagne. L'opinion ne passe pas facilement dans peu de temps. C'est un travail qui doit être fait depuis longtemps, et à travers ce travail, il y a là, évidemment, un effort intellectuel de manipulation de l'opinion à travers un certain nombre de procédés. Vraiment, le procédé est pris par l'Union pour la Nation, c'est celui d'un d'État. Mais c'est un procédé qui est en fait destiné à une population intellectuelle qui fait comprendre le rôle de fonctionnement de l'État. Mais ce n'est pas un procédé qui va un peu plus loin, c'est-à-dire dans les fins fonds, auprès des populations qui ne comprennent pas comment l'État fonctionne et comment il est géré. Et donc par rapport à ça, le bulletin tel que publié par l'opposition est bon, mais reste, il y a une place d'une catégorie de Congolais. Mais il y a une autre catégorie qui
qui ne pourra pas s'élever pour ce débat, et cette catégorie, il faudra une stratégie pour la conquête de l'hôpital.
Jean-Baptiste Beaumanza, je rappelle que vous êtes le coordonnateur adjoint chargé de la communication et médias et porte-parole de l'Union pour la Nation. Quelles sont vos propositions pour améliorer la gouvernance et la gestion du pays?
Oui, bien avant d'arriver à ces propositions, je remercie encore une fois notre compatriote Kabamba, qui nous présente l'autre, la suggestion que nous puissions atteindre d'autres catégories, c'est dans notre agenda, nous le faisons déjà. Je crois que pour ce qui est des propositions, nous n'avons cessé de le dire. Toutes les propositions que nous puissions faire se résument dans la bonne gouvernance. Lorsqu'il y a la bonne gouvernance, il n'y aura pas impunité. Et d'ailleurs, ce que nous sommes en train de dire ici a déjà été dit par le président de la République lui-même. Lorsqu'il a dit qu'il n'avait pas 15-7 personnes qui puissent l'aider à accomplir son programme. Lorsqu'il va déclencher l'opération tolérance zéro, c'est une façon de fustiger lui-même le régime qu'il est en train de piloter. Lorsque Olivier dit que ce qui n'a pas été fait en 65 est en train d'être conduit. En 65, moi j'étais encore à l'école primaire. Je me souviens, je ne savais pas quand est-ce que nos enseignants étaient payés. Je suis arrivé à l'école secondaire même. Au niveau universitaire, j'étais boursier.
Est-ce qu'on peut revenir aux propositions, je vous en prie?
Oui, justement, on revient aux propositions, c'est-à-dire que sous la Deuxième République, il y avait des choses qui allaient mieux qu'aujourd'hui, après les élections de 2006. Nous avons dit que il faut qu'il y ait la bonne gouvernance, qu'on cesse avec l'impunité. Nous voulons que dès à présent, que le gouvernement puisse se dire sur le cas Chebeya et son chauffeur qui a disparu, sur le cas Amatungulu, sur les rapports du Sénat sur la gestion de l'Équateur. Il faut que nous, parce que nous avons vu Moukoukoule pour un bénin problème de véhicule, il a été jugé en procédure d'urgence. Moi qui a aujourd'hui à Makala, celui qui l'a provoqué est dehors, il n'a même pas purgé 4 mois sur les 12 prévus. Justice à plusieurs vitesses. Ce que nous voulons qu'il y ait la bonne gouvernance, que cesse l'impunité et que les conditions de vie des Congolais s'améliorent. Sous Mobutu, on n'a jamais connu le délestage, ni du côté de l'électricité, ni du côté de l'eau. Alors que l'actuel ministre de l'énergie, en prenant le pouvoir, il avait dit désormais délestage zéro, que ce soit du côté de l'eau, que ce soit du côté de l'électricité.
Merci. Olivier Ngoulou, vous êtes philosophe et cadre de l'Alliance de la majorité présidentielle. Vous venez de suivre les propositions de l'Union pour la Nation. Comment vous les abordez?
Je voudrais dire à mon ami Jean-Baptiste Beaumanda qu'il y a un auditeur qui vient de dire quelque chose de très profond. Et je crois que l'opposition et l'Union pour la Nation gagneraient beaucoup en l'écoutant. Il a dit que le Congo était malade de longue date. Alors, si l'opposition avait commencé son évaluation, son rapport, en disant que le Congo est un malade de longue date, voilà de quoi il souffre, et alors à ce moment-là, l'opposition aurait vu que la thérapeutique apportée par le gouvernement va produire des effets. Je vous donne un exemple concret. Lorsque le régime du maréchal Mobutu tombe en 1997, nous n'avons pas plus de 10% de pénétration pour l'eau et l'électricité. Alors, qui accuse-t-on de ne pas avoir mis en place un réseau de distribution d'eau et d'électricité?
Sans là, c'est le bouc émissaire.
Mais oui, non, c'est-à-dire que, oui, mais en quelque sorte, mais c'est très important, parce que à partir du moment où les Congolais comprennent qu'il n'y avait pas de raccordement au réseau électrique, 10% c'est rien, et qu'aujourd'hui, concrètement, le MAG Énergie vient de réparer la turbine d'Inga 2 et que BHP Billiton est en train de mener déjà les négociations pour la construction de la phase 3 d'Inga, ça c'est du concret.
Est-ce qu'on peut revenir aux propositions? Oui. Jean-Baptiste Beaumanga a parlé de la bonne gouvernance, de mettre fin à l'impunité et d'améliorer les droits de l'homme.
Je vous réponds tout de suite que le président de la République, Joseph Kabila, a lancé depuis 2 années déjà une profonde, puissante réforme de la magistrature. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a installé peut-être pas moins de 2000 magistrats. Et l'année prochaine, il y en a encore d'autres qui vont être installés. Je voudrais rappeler à nos amis téléspectateurs et auditeurs qu'aujourd'hui, il y a en cette session de 2011 prévue, une réforme de la justice, une réforme de l'armée, une une réforme des services de sécurité. Pourquoi? Parce que la répression, la législation répressive qui date de la période coloniale et de la période de dictature doit être précisément modifiée. Et ça, ça va être fait au cours de cette session parlementaire.
Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il y a cet auditeur, Kairi Matendera, qui est à Kalemio Katanga, qui dit que tous les Congolais se mettent ensemble pour voir comment petit à petit sortir le pays du chaos observé par l'Union pour la Nation.
Oui, vrai, il faut que les Congolais se mettent ensemble. Mais ce qu'il faut dire, à travers ce qui est observé aujourd'hui, c'est que, à la veille, disons, à quelques points de l'élection, il y a maintenant une remobilisation des troupes dans tous les mouvements, évidemment, il y a plusieurs fois, et cette mobilisation des troupes appelle à des nouvelles stratégies. Donc, il s'agit là de stratégies de combat politique. Ces stratégies peuvent déboucher, comme dans le cas de l'Union pour la Nation, à la mise en place de ce bulletin. Ce bulletin qui, peut-être pour le moment, est encore mensuel, mais qui pourra être avec le temps devenir bimensuel ou hebdomadaire. Et ce bulletin est destiné à un arrosage politique, à une reconquête de l'opinion publique. Mais cela, et ça vous allez l'observer, cela va citer dans le camp du pouvoir en place à repenser une stratégie de contre-attaque, qui est également destiné à une reconquête de l'opinion. Et donc, nous allons assister d'ici peu à des stratégies croisées dirigées toutes vers la reconquête de l'opinion. Et donc, notre objectif ici est que toutes ces stratégies soient des stratégies démocratiques et que ces stratégies ne soient pas des stratégies qui vont dans le sens d'obscurcir la conscience du peuple congolais, mais qu'elles apportent plus de lumière sur la gestion de la chose publique congolaise. Et c'est de la sorte qu'une véritable démocratie se bâtit. Il ne s'agit pas de petites injures lancées les uns contre les autres, mais il s'agit des stratégies souterraines, il n'y a que des personnes qui sont investies pour comprendre ce qui se passe en réalité, des stratégies qui sont mises en place, en fait, pour la reconquête de l'opinion, et cette reconquête va se faire de manière tout à fait démocratique, peut-être là, le vœu à l'être.
Merci Félicien Kabamba. Nous avons abordé la dernière partie de cette émission. Jean-Baptiste Bomanza, il faut conclure. Il y a deux auditeurs, Teddy Mvemba de Goma en Nord Kivu. L'Union pour la Nation n'a aucune leçon à donner au gouvernement, car les partis qui la constituent ont contribué de façon spectaculaire à la destruction de notre pays. Ils le paieront aussi un jour. Raymond de Kinshasa, il est vrai que le pays va mal. Quelle est la contribution de l'opposition pour alléger un peu la souffrance du peuple congolais? Je crois que l'Union pour la Nation et son président ne nous rassurent pas. Ils sont préparés à l'alternance, donc à prendre le pouvoir demain et mieux gérer que l'ANP et ses alliés. Bref, réaction, et ce sera votre conclusion, Jean-Baptiste Bomanza.
Oui, je crois que l'auditeur de tout à l'heure qui dit que l'Union pour la Nation n'a pas de leçons à donner, je crois que l'auditeur se place dans un état qui n'est pas démocratique. Dans tout état démocratique, l'opposition a à dire. Dis bon, le pays va mal, quelles sont les propositions de l'Union pour la Nation? Nous avons toujours fait des propositions. Tout à l'heure, je venais de parler de la fin de l'impunité. Eh bien, je vais conclure en disant ceci, que Olivier n'a pas bien lu notre document. Parce qu'en ce qui concerne la desserte en eau potable, à la page 14, nous disons en 1990, le taux de desserte en eau potable avait atteint 70% de la population urbaine. Ça, c'est la DG de la Régie des Eaux au Sénat le 26 novembre 2008.
Conclusion,
Olivier.
Un mot pour conclure.
Donc, pour conclure, je dirais que notre bulletin d'information avait joué le rôle d'agiter la sonnette d'alarme. Et ce que nous voulons est que, désormais, les pays soient gérés comme il se doit.
Merci.
Et que la démocratie joue effectivement son rôle, de sorte que, comme nous allons aux élections, que la RTNC soit libérée.
Merci Jean-Baptiste Bomanza.
Qu'elle soit privatisée par l'AMP.
Merci Olivier Ngoulou et à cette auditrice Aline Riziki du Sud Kivu. Il ne suffit pas d'être de l'Union pour la Nation pour apprécier ce rapport, car l'enlisement de la démocratie et la détérioration du social des Congolais en sont des preuves. Bref réaction, c'est ça votre conclusion.
Je voudrais lui dire très rapidement que lorsqu'on dit que 67% de la population urbaine avait accès à l'eau potable, 67% de la population urbaine sur un pays à 80% rural, c'est rien du tout. Alors, très rapidement, pour dire à cette dame, que je respecte beaucoup, c'est qu'il y a une réforme de l'État qui est en cours. Réforme qui est nécessaire parce que précisément, l'État congolais avait disparu. Aujourd'hui, nous reconstruisons sur du néant. Voilà ce qu'il faut lui dire.
Merci Olivier Ngoulou. Félicien Kabamba, juste un mot, je vous en prie, pour conclure.
Oui, juste un mot, c'est parce que quand on vient de parler de l'État, il faut réagir de l'État.
Merci.
Et le pouvoir de l'opposition du pouvoir, la réaction de l'État doit être le tout premier chose.
Merci Félicien Kabamba, cette émission est terminée. Merci à Guy Maté, Kéline Coupé, Jean-Claude Nsiala, Samuel Kachak, qui ont travaillé sous la supervision de Félix Pelamondo et Patrick Kiasongwa, à la présentation Alain Irung. Restez branchés sur Radio Capit.